les chemins de la sagesse. Une émission proposée par Michel Théron.
Eh bien, bonjour Michel.
Bonjour Guylaine, bonjour à tous.
Nous nous retrouvons avec plaisir autour de votre livre sur les chemins de la sagesse que vous publiez aux éditions BOD. Et nous allons continuer, vous allez continuer de commenter cette notion de concentration, d'attention.
Voilà, c'est quelque chose de très important. La concentration est à la base de la vraie contemplation. Et la contemplation n'est pas divertissement, éloignement de soi, mais simplement absorption totale dans ce qui existe pour celui qui contemple et qui est seul à exister. Celui qui contemple va se confondre avec ce qui est contemplé. Et ainsi, la contemplation va s'élargir jusqu'à embrasser l'univers entier. Alors, elle unit un état de pleine conscience, qu'on appelle en anglais « mindfulness », dont j'ai déjà souligné l'importance dans les émissions précédentes. Et puis, cette idée de non-dualité ou de non-séparation qu'en Inde on appelle « advaita », c'est un mot sanskrit, l'absence de séparation, la non-dualité. Lorsque l'âme personnelle, en Inde c'est « atman », et le grand tout, l'ultime réalité, en Inde aussi c'est « brahman », vont se fondre l'un dans l'autre. Le Vedanta illustre cela dans la formule célèbre « tat vam asi », c'est en sanskrit, c'est-à-dire « tu es cela ». Comprenez, tu es cela seul qui est devant toi. Alors cette absorption se retrouve aussi chez nous mystiques. Chez nous, vous voyez, Guylaine en a bien dit la dernière fois ou lors des émissions précédentes que nous disons toujours que ailleurs l'herbe est plus verte, mais en fait, chez nous, dans notre tradition, il existe les mêmes choses. Mmh. C'est pour n'est besoin d'aller en Inde pour voir justement cette fusion.
C'est plus exotique.
Voilà, alors il y a toujours l'attrait de l'exotisme. Alors on prend l'avion avec du kérosène non surtaxé et on va continuer de polluer la planète pour aller s'initier à l'essentiel. Alors qu'il suffirait très souvent d'explorer notre propre tradition pour justement trouver les mêmes choses. Alors chez nous, un mystique rhénan qui s'appelle Maître Eckhart disait « L'œil par où je vois Dieu est le même que celui par lequel Dieu me voit ». Et effectivement, cette non-séparation, cette fusion, existe en poésie. Le poète, en effet, s'immerge dans le monde jusqu'à ne plus faire qu'un avec le monde, à être ce qu'il voit, ce qu'il sent, ce qu'il entend, etc. Par exemple, si je marche dans la campagne et si je suis absorbé par les sensations mêmes de ma marche, je vais devenir à la fois le pas qui me porte et le chemin que je suis. Et ce dernier, le chemin, devient à son tour le marcheur lui-même que je suis, dont l'état d'esprit et l'âme passent en lui. Je pense à un vers de Lamartine dans l'automne qui est le suivant « Je suis d'un pas rêveur, le sentier solitaire ». Normalement, d'un point de vue logique, c'est le marcheur qui est rêveur et qui est solitaire. Mais vous savez, Guylaine, la logique est toujours un massacre d'impressions, hein, et c'est l'ennemi de la poésie. Dans certains états de fusion, dont il faut prendre une conscience aiguë, tout se mélange, tout s'interpénètre. Et le pas lui-même devient rêveur, et le sentier devient solitaire. Mmh. Je suis d'un pas rêveur, le sentier solitaire. Il n'y a plus de dualité. Le moi et le monde se fondent l'un dans l'autre.
Par ces exemples-là de cultures différentes, vous montrez aussi que cet éveil à l'attention, à la méditation, à la concentration est universel finalement. C'est dans l'homme.
Exactement.
Qu'il soit en Inde, qu'il soit ici en Occident.
Nos poètes chez nous, dans la tradition occidentale, l'ont retrouvé. Hein. Mais même, c'est même pas la peine d'aller explorer l'univers des poètes. Écoutons notre langage. Hein. Mmh. Il n'est pas besoin de grandes considérations abstraites ou de grands développements théorique pour faire comprendre l'advaita ou la non-dualité. Hein. La poésie, bien sûr, y suffit, comme je viens de le dire, et même le seul examen du langage quotidien. Voyez par exemple le double sens de mots très courants comme promenade. Promenade, c'est le fait de se promener, de marcher, et c'est aussi le lieu dans lequel on se promène. Hein. J'ai fait une belle promenade, donc j'ai bien marché, mais aussi j'ai emprunté telle promenade, c'est-à-dire tel lieu dans lequel j'ai marché. Hein. Prenez le mot « vue ». Vue, c'est l'acte de voir, par exemple, d'en perdre la vue, hein, mais c'est aussi ce qui est vu. Cette pièce donne sur une belle vue, c'est-à-dire un beau spectacle, hein. Donc là, il y a bien la fusion du sujet et de l'objet. Il faut toujours écouter le langage, hein, et le scruter. De même, vous voyez, Guylaine, quand on parle d'une route circulante, c'est pas la route qui est circulante, c'est moi qui circule sur la route, hein. Si je parle d'un plat gourmand, eh bien, le plat n'est pas gourmand, c'est quelque chose d'inanimé, hein. C'est moi-même qui suis gourmand. Et on voit que l'adjectif est transféré d'une réalité à une autre, hein, du passant qui circule, par exemple, à la route qu'il emprunte, hein, du gourmet qui goûte le plat à l'objet de sa gourmandise. C'est donc bien d'une fusion sujet-objet qu'il s'agit, donc d'une réalisation simple de la non-dualité. Alors, ce transfert d'adjectif, là je me fais plaisir en tant qu'ancien professeur de lettres, vous voyez Guylaine, ce transfert d'adjectif s'appelle en rhétorique un hypallage, hein, à partir du grec hypallatein qui veut dire échanger. Alors les occasions de rencontrer les hypallages et de les vivre sont innombrables dans une seule de nos journées, pour peu que nous prêtions attention, toute logique étant exclue, à la moindre de nos expériences sensibles et à nos façons de nous exprimer. Alors là encore, je me fais plaisir. En tant que latiniste, je vais citer peut-être la plus belle hypallage qui existe. Je l'emprunte à l'Énéide de Virgile. Ils allaient obscurs dans la nuit solitaire à travers l'ombre. Ibant obscuri, ils allaient obscurs, sola sub nocte, dans la nuit solitaire. En plus, là, il y a une hyperbate, une transgression, un saut, hein, per umbram, à travers l'ombre. Donc, normalement, c'est la nuit qui est obscure, et c'est les marcheurs qui sont solitaires. Mais là, la nuit environnante passe dans les marcheurs, ils allaient obscurs, et les marcheurs passent dans la nuit, qui se font un nœud, les marcheurs à la nuit ne font qu'un. Alors, bien sûr, cela implique une personnification de l'inanimé, donc un animisme, hein. Hugo disait « tout vit, tout est plein d'âme », hein. Mais en fait, c'est comme cela que nous fonctionnons dans la vie sensible.
Il y a un transfert de qualité, là.
Voilà, exactement. L'hypallage, c'est transfert, hein, transfert. Par exemple, Colette voit un écureuil qui bondit devant elle, et elle va dire « le bon roux d'un écureuil », et non pas « le bon d'un écureuil roux », parce qu'elle voit d'habitude quelque chose qui bondit et qui roux, qui est reconnu ensuite un écureuil. Oui, hein. Oui. Voilà la poésie. Hein. La poésie, c'est pas dire « je vois bondir un écureuil roux », mais « je vois le bon roux d'un écureuil », vous voyez. Pareillement, Marguerite Duras, dans « Moderato cantabile », au lieu de dire, à propos de Anne Desbarèdes, l'héroïne du roman, elle passe sa main dans ses cheveux blonds désordonnés, elle écrit « elle passe sa main dans le désordre blond de ses cheveux ». Parce que ce que l'on voit, c'est un désordre blond, c'est un amas blond, et ensuite c'est reconnu en cheveux, vous voyez. Donc je dirais que la distinction que nous devons à Descartes, hein, entre le sujet pensant et le contenu de sa pensée, c'est une distinction dangereuse. Pour Descartes, la matière extérieure est une chose étendue, res extensa, comme on dit en latin, distincte de celui qui la pense. Mais d'un point de vue sensible, eh bien, elle nous est indispensable, justement, et indissociable, cette matière extérieure, hein. La vérité est donc dans l'animisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la proximité animée des choses. Vous voyez, Guylaine, là, je vous parle, et je viens de faire, sans m'en rendre compte, une hypallage pour la proximité des choses animées. Ouais. Je dis tout de suite le plus important, dans la proximité animée des choses. Hein. Et le langage est plein d'une vie de ce type. Ainsi, on dit « la plaine s'étend ». La montagne se dresse, hein, ou bien la route monte, ou la route descend. Enfin, c'est moi qui monte, c'est pas la route, hein, vous voyez. Donc, pareillement, de la sorte, tout le monde vit, et tout est, nous est proche et fraternel, et nous pouvons à certains moments nous confondre avec lui. Alors, ce qui est folie d'un point de vue logique et sagesse d'un point de vue sensible, c'est le retour à un monde ancien et vraiment vivant, souvent perdu dans la vie d'adulte, mais qu'il ne s'agit que de retrouver. Et de toute façon, ce monde affleure toujours dans le langage ordinaire immédiat. Alors là, je vais développer très brièvement un thème qui m'est très cher depuis que j'enseigne les lettres, que j'enseignais les lettres, parce que maintenant je suis à la retraite. Je note au passage que ce qu'on appelle figures ou fleurs de rhétorique ne sont pas des ornements du discours logique qui lui seraient ultérieurement ajoutés une fois que le discours logique a été formulé pour embellir le discours logique. Non, c'est faux cette perception. Au contraire, les figures de rhétorique ne sont pas ornementales, ne sont pas des fleurs, mais rendent compte de ce qu'est la perception immédiate, saisie à sa racine, avant que l'intellect mette en ordre les impressions premières. Et en cela, elles sont ce qu'il y a de plus précieux, elles ont une valeur proprement spirituelle. Baudelaire le dit bien dans ses Curiosités esthétiques, voici ce qu'il dit, il est évident que les rhétoriques et les prosodies ne sont pas des tyrannies inventées arbitrairement, mais une collection de règles réclamées par l'organisation même de l'être spirituel. C'est un peu savant ou alambiqué la façon dont il parle, mais je dirais que la figure de rhétorique n'est pas un ornement, c'est simplement ce que sensiblement nous percevons immédiatement. Par exemple, vous voyez, Guylaine, je vois justement un pré vert et silencieux. Si j'écris « je vois un pré vert et silencieux », c'est banal, c'est de la prose. Qu'est-ce que je vois principalement? Qu'est-ce que je perçois? Je perçois le vert du pré et le silence, auditivement. Donc je dois écrire « le silence vert du pré ». Vous voyez? Silence vert. Donc il y a là une fusion de sensations que l'on appelle une synesthésie, synesthésie, des sensations fondues ensemble, que Baudelaire a appelé des correspondances. Il ne faut pas croire que pour écrire de façon vivante, il faudrait d'abord écrire banalement et ensuite enjoliver par des figures. Non, ça c'est une très mauvaise vision des choses, et c'est cette vision justement de la figure de rhétorique comme évidence sensible, première, immédiate, c'est-à-dire sans médiation de l'intellect, c'est ce que j'ai développé dans tous mes cours autrefois, et spécialement dans un livre qui est paru aussi chez BOD, qui s'appelle « La stylistique expliquée » et dont le sous-titre est « La littérature et ses enjeux », dont le même éditeur que celui qui a édité sur les chemins de la sagesse.
Donc là, vous expliquez toutes ces tournures.
Oui, toutes ces tournures.
Toute cette rhétorique.
Voilà,
cette façon
d'exprimer
le sensible.
Exactement. Et en fait, elles ont aussi un équivalent visuel. Donc, toujours chez BOD, j'ai publié un autre livre qui s'appelle Le style par l'image, où j'ai montré que les figures du langage verbal sont aussi des façons immédiates de percevoir dans la photographie. Vous voyez? Je crois que quand on veut écrire, il faut se ramener à l'impression initiale, et non pas vouloir faire joli. Et alors on perçoit que le monde que l'on dit extérieur peut nous devenir intérieur. Il nous est alors non seulement proche, mais quasi consubstantiel. Nous sommes immergés dans le monde extérieur et nous sommes pénétrés par le monde extérieur. Le cœur qui bat et le chant du coucou dans le lointain sont une seule et même chose. Una et adem queres, comme on dit en latin. Et la fleur regardée nous regarde en retour et nous parle. Rimbaud écrit « Une fleur qui me dit son nom ». C'est magnifique. Normalement, c'est l'homme qui parle à la fleur. Mais là, la fleur lui dit son nom. Il est évident que si, par exemple, je m'absorbe sur l'esplanade à Montpellier dans la contemplation d'un massif de fleurs, et que les gens autour de moi s'attroupent et viennent de dire « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Je vais dire « La fleur me dit son nom ». Alors aussitôt, le SAMU et la colombière. Vous voyez, bon. Donc je dirais que là...
Sauf si vous avez affaire à un autre poète.
Ah, sauf si j'ai affaire à un poète. Il est évident que ce retour aux perceptions sensibles, c'est le propre de l'enfant, qui animise tout, pour ainsi dire. C'est le propre du fou aussi. Et c'est peut-être aussi plus le propre de la femme que de l'homme. Parce que la femme sent le monde en correspondance avec lui, avec elle, pardon. Elle se sent immergée dans le monde beaucoup plus. Par exemple, bon, là, nous sommes à la radio, nous ne sommes pas à la télévision, on ne peut pas nous voir. Mais si je vous dis, Guylaine, regardez vos ongles. Eh bien, moi, regardez, je regarde mes ongles, je replie mes doigts et j'inspecte mes ongles. Tandis que je suppose que vous, en tant que femme, Guylaine, même vous étendez vos mains et vous regardez vos ongles comme ça, non ?
Prêt à les manipuler.
Prêt à les manipuler. Mais pour moi, cela veut dire que lorsqu'une femme étend ainsi ses mains, elle est en harmonie, en symbiose avec le monde. Elle s'étend vers le monde, alors que l'homme, lui, il inspecte, il regarde si c'est propre, par exemple, ses ongles, etc. Donc, l'homme est ce logos qui résonne, tandis que la femme se dissout plus facilement dans le monde. Alors, il n'est point besoin de courir le vaste monde au risque de se détourner de soi pour s'émerveiller. Tout est merveilleux, si l'on voulait, il n'y aurait que des merveilles partout. Alors, nous allons écouter une belle chanson d'Isabelle Aubray, « C'est beau la vie », où elle nous invite à cet émerveillement devant les choses.
Le vent dans mes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau. C'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau. C'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, mais surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris, que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées, que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé, que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter.
Sur FM+, Michel Théron qui continue à nous faire partager son livre sur les chemins de la sagesse, accompagné par Isabelle Aubray, qui montre combien l'attention à la vie est aussi une qualité du poète.
Absolument, et au moindre moment, aux moindres instants, au présent et au cadeau du présent, parce que c'est-à-dire les présents du présent, parce que le présent ça veut dire aussi un cadeau. Je vous fais un présent, hein. Voilà. Donc il n'est pas besoin de courir le monde, je répète, en se détournant de soi pour s'émerveiller. Le moindre objet attend que nous jetions sur lui un regard charitable pour que se manifeste sa présence en nous. Il y a une phrase d'Angelus Silesius qui est très belle, un grand mystique aussi, hein. Où cours-tu? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi, hein? C'est pas la peine de courir le monde, hein. C'est au fond de soi qu'on doit trouver l'essentiel, et cet essentiel peut se trouver dans la contemplation. Le moindre objet attend que nous jetions sur lui un regard charitable, et comme le dit William Blake dans ses Chants de l'innocence, voir le monde dans un grain de sable et le paradis dans une fleur sauvage, tenir l'infini dans le creux de sa main et l'éternité dans une heure. Vous voyez ?
Magnifique.
Voilà, oui, oui. En anglais, c'est encore plus beau, hein, mais bon, là, c'est une traduction.
Vous préférez le latin et le grec à l'anglais, je crois.
Écoutez, moi, je déplore justement, actuellement, l'impérialisme, pas de l'anglais, mais du globish, c'est-à-dire du global English, hein, de l'anglais sommaire, parce que l'anglais est une très grande langue de culture. Mais ce qui se répand aujourd'hui, c'est un globish, c'est une espèce de sabir, c'est-à-dire de langue très pauvre, finalement, et technicienne. Hein. Bon. Alors, on dit, mais mon quotidien est pauvre, ma vie est pauvre. Mais non, si notre quotidien nous paraît pauvre, il ne faut pas l'accuser. Il faut sachez voir autour de nous, à côté du moindre de nos pas. Hein. Et le plus petit objet, la plus modeste fleur, contiennent le monde entier. Si l'on sait les voir, si l'on sait les tirer du néant ordinaire, si l'on sait s'absorber un nœud, ce sont des manifestations ou des apparitions miraculeuses. Prenons modèle sur ce qu'est l'artiste, naturellement, un sauveur de phénomènes. Ta phénoména, hein, c'est-à-dire les manifestations, les apparences, mais ces apparences qui sont du réel, hein, les manifestations, phénomènes. Alors vous voyez, Guylaine, on dit d'habitude que le sage, puisque mon livre est consacré à la sagesse, que le sage est celui qui est revenu de tout et qui ne s'étonne de rien. Ne s'étonner de rien serait une maxime de sagesse. En latin, nil admirari. Eh bien, il me semble que c'est exactement le contraire. Le sage est celui qui s'étonne de tout, précisément. Et alors, en ce sens, nul n'est sage qui ne soit à tel ou tel moment de sa vie totalement contemplatif et entièrement pénétré par le monde qu'il voit et qu'il perçoit devant lui. Hein. Sachant regarder. Par exemple, la mère de Colette, qui s'appelait Sidonie, hein, et à laquelle Colette a consacré un très beau livre, Sidon, un livre de mémoire, disait toujours à sa fille, regarde, voilà, regarde, sache regarder. Hein. Par exemple, dans le jardin, elle voyait un merle qui piquait les cerises bien mûres. Alors Colette, la fille, la petite fille, disait à sa mère, mais maman, les cerises, nous allons les perdre. Eh bien, Sido, elle était émerveillée par l'attitude du merle qui piquer les cerises. Hein. Sido avait deux visages, un glorieux visage de jardin, c'est celui que nous voulons d'évoquer, et un soucieux visage de maison, c'est-à-dire rentrer chez elle, elle était obligée de faire vivre sa famille, etc. Bon, eh bien, nous aussi, nous pouvons avoir ces deux visages, préférant le glorieux visage de jardin au soucieux visage de maison, hein, il me semble. Voilà, alors nous avons terminé le chapitre concentration, nous allons amorcer la réflexion pendant la dizaine de minutes qui nous reste hein, sur la notion d'espérance.
L'espérance. Hein,
l'espérance.
C'est un terme bien théologique ça, mais vous allez nous en montrer beaucoup de facettes.
Donc effectivement, nous changeons de chapitre, hein, et alors chaque fois je mets des points d'interrogation, hein, espérance, point d'interrogation, désir, point d'interrogation, etc. Hein, pour me poser la question, qu'est-ce qu'il faut en penser?
Voilà. Hein. Vous êtes apte à la discussion, vous êtes ouvert à la discussion.
Voilà, il me semble, vous savez, Gide disait, un beau livre est celui qui sème à foison les points d'interrogation. Hein. Donc, la littérature n'a rien à voir avec, la littérature, et je dirais aussi la sagesse, parce que tout ça fait un tout, hein, avec l'affirmation définitive. Hein, l'affirmation définitive, c'est pour ça que je disais que mon livre est contre les livres de coaching qui nous disent « Yaka, Faucon, face ça, etc. » Bon, non, hein. En fait, vous avez plusieurs postures qui, chacune dans son ordre, peut être défendue. Hein. Donc, l'affirmation me semble, toujours une mauvaise chose. Flaubert parlait en littérature de l'ineptie de vouloir conclure. Hein, vouloir conclure, c'est-à-dire ne pas terminer. Il ne faut pas terminer. Ça me fait rire parce que je pense que j'avais un étudiant en hypocagne qui me rendait des dissertations sans conclusion. Alors, je lui dis, pourquoi vous n'avez pas mis la conclusion? Alors, il m'avait dit, mais monsieur, vous m'avez bien dit, après Flaubert, qu'il y a une ineptie à vouloir conclure. En cela, il était très impertinent et très pertinent. Il avait tout à fait raison. Hein. Et oui, il ne faut pas affirmer. Hein. Définitivement une chose. Hein. Gide disait que l'incertitude, peut-être l'indécision, était signe d'un grand esprit. Hein. Mmh. Bon, moi je n'irai pas jusque-là, je ne pense pas pour l'indécision, mais je pense que chaque posture, hein, comme l'espérance dont nous allons parler et que dont nous continuerons de parler lors de la prochaine émission, a plusieurs aspects. Alors voyons d'abord l'aspect positif. Vous avez très bien dit, Guylaine, que l'espérance est une notion théologique. Hein. Elle constitue l'une des trois vertus cardinales ou théologales de la construction chrétienne. Elle y occupe le deuxième rang, dans l'ordre où on les nomme. Elle vient après la première, la foi, et avant la dernière, l'amour, que l'on appelait autrefois la charité. On disait les trois vertus théologales sont la foi, l'espérance et la charité. Mais cette charité, qui est agapée en grec, en fait, avait l'inconvénient en français de donner, une connotation de commisération, paternaliste. Alors maintenant, on a mis l'amour, on a raison. Dans la foi, l'espérance, l'amour. Par exemple, dans la croix camarguaise, moi j'habite dans la petite Camargue, vous avez une croix qui représente la foi, vous avez une encre au bas de cette croix camarguaise qui représente l'espérance, et au milieu, vous avez un cœur qui représente l'amour, ou la charité, l'amour, voilà. Donc, c'est une croix qui unit les trois vertus théologales. Alors, pour Charles Péguy, un grand auteur aujourd'hui un peu oublié, malheureusement, c'est l'espérance qui est la plus importante. Dans un livre qui s'appelle Le Porche du... dans un texte qui s'appelle Le Porche du mystère de la deuxième vertu, Péguy nous montre la petite espérance qui s'avance entre ses deux sœurs, celle qui est mariée, c'est-à-dire la foi, et celle qui est mère, c'est-à-dire la charité ou l'amour. Et Péguy, avec une familiarité touchante qui le caractérise, très souvent, fait parler Dieu lui-même. C'est Dieu qui parle, pour Péguy. La foi, dit Dieu, ça ne m'étonne pas. Et la charité, non plus, ça ne m'étonne pas. Mais quant à l'espérance, dit Dieu, je n'en reviens pas. En effet, il peut y avoir une foi chevillée au corps, sans qu'il y ait d'appartenance à une religion. Il peut y avoir un amour actif chez quiconque. Il n'est pas besoin d'être croyant. Mais c'est une question qu'on ne pose pas assez. Comment se fait-il que cette espérance puisse encore nous habiter après toutes les déconvenues que nous connaissons dans la vie? Alors je dirais que si j'avais à prendre les trois religions abrahamiques, le judaïsme, le christianisme et l'islam, je dirais que le christianisme incarne l'amour ou la charité, l'islam incarne la foi, chevillée au corps, et l'espérance, alors l'espérance, c'est le judaïsme, l'espérance dans le Messie, etc. On dit que Sartre, à la fin de sa vie, aurait dit la chose suivante, on lui demandait « Pourquoi votre philosophie est-elle dépourvue d'espoir ou d'espérance ?» Ici, considérons les deux mots comme synonymes. Eh bien, Sartre aurait dit « Effectivement, le fond de ma philosophie est dépourvu d'espoir. Maintenant, je sais où il est, l'espoir ou l'espérance. Mais je suis trop vieux pour apprendre l'hébreu. » C'est-à-dire, je suis trop vieux pour me convertir au judaïsme. Alors, je crois, Guylaine, que nous allons laisser les choses en suspens maintenant, et que nous allons dire, comme toujours, à suivre la suite au prochain numéro. On verra justement les différents aspects de cette espérance.
En tout cas, on l'espère.
Ah oui, il faut l'espérer. Il faut l'espérer.
Au revoir, Michel.
Au revoir à tous.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.